Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h32.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et nous recevons notre invité de la matinale. On va parler politique avec Neil Kawissin. Il est conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB. Et il est venu jusqu'à nous au micro de Bretagne 5 matin. Je le remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Neil Kawissin, j'allais presque dire nouveau conseiller régional, hein, parce que c'est votre premier mandat.
C'est vrai, tout à fait. Ça fait moins d'un an. On a été élu à toute fin du mois de juin 2021.
Beaucoup de dossiers sur la table, allais-je dire, à la région Bretagne. Alors on va en parler dans quelques instants. Mais je voulais vous entendre sur l'actualité avant de démarrer cet entretien. On a une guerre qui se passe en Europe, en Ukraine. Comment vous la ressentez, cette agression russe ?
Bah, comme tout le monde, je pense que j'ai été très choqué le matin où on a appris l'invasion, parce qu'on savait qu'il y avait des manœuvres militaires. Mais je pense qu'on était très nombreux à croire que Poutine faisait un peu d'intimidation, finalement. Et non. Alors, il y avait déjà la guerre, puisqu'il y avait déjà la guerre au Donbass et en Crimée, on l'oublie pas. Mais là, ça prend une autre ampleur. Toute l'Ukraine a été bombardée, il y a des blindés partout. Enfin, c'est extrêmement grave. Et oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident, du coup, de se concentrer sur les dossiers du Conseil régional quand en même temps, on a une guerre aux portes de l'Europe comme ça.
La région a d'ailleurs voté une aide pour l'Ukraine.
Tout à fait, oui. Oui, une aide de 100 000 euros pour l'Ukraine. Oui.
C'est important d'accueillir aussi des Ukrainiens ici en Bretagne. La Bretagne qui est une terre d'accueil.
Des Ukrainiens comme tout réfugié, effectivement. Mmh. Oui, les gens qui doivent fuir leur pays à cause de la guerre, notamment, ou d'autres causes, doivent être accueillis correctement. Et c'est un honneur de les accueillir ici.
Alors, on va parler, malgré cette actualité compliquée, de la présidentielle, qui arrive, elle aussi, dans cette actualité compliquée. L'UDB a choisi de soutenir Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle, candidat des Verts, Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est pas un choix exceptionnel, puisqu'on a déjà soutenu des candidats verts par le passé, puisque parmi les partis, les grands partis hexagonaux, c'est celui qui est le plus proche de nous sur pas mal de sujets. On peut citer la transition écologique, le nucléaire, une politique migratoire humaine aussi, la sortie des pesticides, et beaucoup de sujets avec lesquels on est d'accord avec les Verts finalement. On a peu de sujets de désaccord avec eux, c'est plutôt que souvent on va pas forcément mettre les priorités au même endroit, ou qu'on peut avoir des appréciations un peu différentes par moment, mais voilà, on n'a pas de grands désaccords sur le fond. Et là, suite à une discussion avec l'équipe de campagne de Jadot, alors on a pu faire le tour d'un certain nombre de dossiers, on a pu aussi mieux prendre en compte certains sujets qui n'étaient pas assez à notre avis dans le programme. Et donc comme on a été écouté là-dessus, pour nous ça a été naturel de soutenir Yannick Jadot, effectivement.
Alors il y a eu un énième rapport du GIEC qui est sorti en toute fin de semaine dernière, début de cette semaine. Rapport plus qu'alarmiste et plus qu'alarmant sur l'état de la planète. Est-ce qu'il est encore temps d'agir très vite, même au niveau régional par exemple ?
Alors on sait qu'il y a des dégâts qui sont irréversibles, mais il est toujours temps, puisque plus on attend, pire ce sera. Et donc il est jamais trop tard pour bien faire. Et oui, au niveau régional, il y a des politiques à réorienter rapidement, même si la région ne peut pas tout, parce que c'est pas l'acteur public le plus puissant sur le territoire, c'est l'État
sent qu'il y a une volonté quand même de la région d'avancer sur ces dossiers, même si c'est un peu compliqué. On pense à l'agriculture ici en Bretagne.
Alors il y a très certainement une prise de conscience dans les discours, ça je l'accorde. Maintenant, à notre avis, cette prise de conscience, elle s'est pas complètement traduite dans les actes. Je peux donner un exemple. Actuellement, dans le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, on prévoit de sortir des pesticides pour 2040. Mais dans les programmes agricoles que la région soutient, il y a encore des programmes avec des pesticides de synthèse. Donc là, on n'a pas mis en cohérence toutes les politiques avec
une sorte de grand écart.
Il y a une sorte de grand écart parce que aussi l'agriculture, l'agroalimentaire, l'économie bretonne est ce qu'elle est. Et c'est pas évident, j'imagine, pour l'équipe en place de tout réorienter tout de suite. Donc nous, on est un peu critiques, mais on pousse quand même pour que ça aille dans le bon sens.
Vous votez évidemment lors des sessions hein, du Conseil régional. Vous votez, alors je ne vais pas vous demander hein, pour quel ou tel texte, mais est-ce qu'il y a une volonté de faire avancer la région un petit peu au-delà, j'allais dire, des sensibilités politiques ?
Oui, bah, nous on est dans une opposition constructive. Et puis la situation particulière, c'est que la majorité de Loïc Chesnais-Girard n'est pas absolue. Ce qui veut dire que pour faire avancer les grands sujets, il faut qu'ils trouvent des compromis en amont des votes. Ça peut passer par une abstention négociée ou par des votes pour, quand tout va bien. Là, ce qu'on a eu pour le budget, c'est qu'il n'y avait pas eu la négociation préalable, donc ça a failli, le budget a failli coincer.
Voilà, on allait y venir, mais vous devancez, c'est très bien.
Et il a fallu passer par un vote à bulletin secret qui est pas la procédure la plus transparente pour les lecteurs, même si...
On a vu Claire Desmarc-Poirier qui s'est un petit peu opposé avec le président de région.
Alors, on aurait souhaité que ça se fasse publiquement pour que les élus régionaux assument leur vote devant leurs électeurs. Maintenant, ça s'est fait comme ça, c'était la responsabilité du président de région, dont acte, mais on lui a dit très clairement que pour l'année prochaine, s'il veut un budget pleinement légitime, bah, il faut qu'il discute avec certaines de ses oppositions, à lui de choisir, selon la direction dans laquelle il veut élargir, pour au moins négocier une abstention, de manière à ce que le budget passe proprement. C'est pas une négociation pour rejoindre la majorité, on n'est pas en train de demander des postes de vice-président, mais c'est pour ne pas bloquer l'institution et éviter les petites manœuvres. Voilà.
Sur quoi ça bloquait ? Alors là aussi, on ne va peut-être pas tout explorer, mais quels étaient, par exemple, les sujets sur lesquels ça bloquait, ce budget ?
Alors ben, j'ai indiqué la question de la politique agricole. Hein. Pour nous, c'est le plus gros désaccord, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion possible. Il y en a, évidemment. Mais actuellement, nous, c'est des politiques qu'on ne peut pas voter, vu les contenus actuels. La politique de l'eau, mais par ricochet, finalement, de la politique agricole aussi. Ensuite, je vais pas toutes les passer, en vue. Sur la politique touristique, on est assez critique aussi parce qu'on trouve que on est encore trop à faire la promotion du littoral qui n'en a pas vraiment besoin, c'est le moins qu'on puisse dire, et que on pourrait avoir une politique beaucoup plus affirmée de rééquilibrage là-dessus. Même chose sur l'aménagement du territoire. Sur le SRADET, on trouve qu'on est vraiment resté au milieu du guet et on pousse pour avoir des choix politiques plus affirmés sur la sobriété foncière, sur l'équilibre territorial. Et puis, il y a des politiques sur lesquelles il y a des lignes qui bougent. On peut se retrouver, par exemple, sur la question des transports et des mobilités. À notre grande surprise, un amendement est passé, voté par toutes les oppositions contre la majorité, mais comme la majorité relative, si par hasard toutes les oppositions votent pour, ça passe. Et donc un amendement qui prévoit des études pour la réouverture de plusieurs lignes de chemin de fer, dont Auray-Saint-Brieuc, qui est une de nos grandes revendications. Alors ça ne veut pas dire que la ligne va rouvrir, parce qu'on n'est que sur des études, mais c'est intéressant que ça se soit passé. Et ça veut dire effectivement que le jeu politique est plus ouvert que sur d'autres mandats. Ensuite, il faut que tout le monde apprenne à travailler comme ça, parce que c'est inhabituel. Mais c'est un mandat qui peut être très intéressant pour ça.
Voilà, mandat constructif, en tout cas, on l'entend dans ce sens-là. Il y a aussi la politique culturelle et les langues de Bretagne. Alors, le breton, le gallo, est-ce que, de votre point de vue, le budget a bien servi cette politique linguistique de la Bretagne, ou alors peut mieux faire ?
Bah les deux, mon capitaine, en fait. Bah c'est ce que j'ai dit en session. Il y a une augmentation du budget cette année, la politique linguistique, d'un bon million. C'est 15%, donc c'est pas rien, faut le dire. La liste sur laquelle j'étais, et beaucoup d'autres, avaient demandé un doublement de ce budget. Alors certaines demandaient un triplement, mais parfois en comptant aussi des bouts de culture. Donc globalement, presque toutes les listes s'étaient engagées pour une augmentation substantielle du budget. On peut dire ça. Là, la majorité augmente d'un million. Si on suivait cette trajectoire sur tout le mandat, ça nous mène un doublement à la fin du mandat. Donc, ce serait de mauvaise grâce de ma part de m'opposer à ça. Et on l'a voté, cette augmentation budgétaire, et on l'a saluée. Maintenant, on pourrait aller plus vite, et Stéphanie Stoll, qui est élue dans un autre groupe, le groupe centriste, a déposé un amendement proposé qu'on aille plus vite et qu'on vise le doublement à mi-mandat. Donc j'ai aussi voté pour ça. Maintenant, le fait est qu'on n'a pas encore le plan de politique linguistique, et évidemment, la trajectoire budgétaire, ça ira avec. Ça, c'est pour 2023, donc on participera à la discussion là-dessus. S'il y a une possibilité d'avoir une politique consensuelle, tant mieux.
La région Bretagne fait des efforts en ce sens pour préserver. Alors je dis préserver, mais aussi, je crois qu'il y a un autre volet.
Faire vivre.
Ouais. Voilà, la préservation, c'est une chose, parce qu'évidemment, les anciens locuteurs bretons disparaissent. C'est le temps qui passe, mais les jeunes s'intéressent à la langue. Aujourd'hui, il y a l'éducation aussi à la langue bretonne, à la langue galaise.
Il y a deux gros enjeux, c'est la transmission et la place dans la vie publique. Évidemment, les deux vont ensemble, parce que l'un sans l'autre n'a aucun intérêt. Alors, pour la transmission, la région intervient notamment pour la formation des demandeurs d'emploi qui peuvent se former en breton pour ensuite travailler soit dans l'enseignement, soit dans d'autres domaines. Donc, c'est une politique importante, même si, en fin de compte, c'est l'État qui décide combien de profs de breton il y aura là-dessus. Mais disons que la région peut intervenir sur ce goulot d'étranglement pour essayer de débloquer les choses.
Il y a moyen de discuter avec l'État, quand même, de pousser un peu.
Alors, c'est pas évident parce que on peut pas dire que... Enfin, ça dépend des interlocuteurs, en fait. On a un ministre de l'Éducation qui a pas été extrêmement ouvert sur ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est lui qui est à l'origine de la censure partielle de la loi Molac l'année dernière. Et puis quand on voyait la convention État région qui souhaitait pour la transmission des langues de Bretagne, on ne peut pas dire que c'était un grand progrès, bien au contraire. Mais finalement, le rapport de force, la mobilisation avec la manif de Guingamp ont fait que on a eu un autre interlocuteur qui est Jean Castex, et ça a avancé d'une manière plus satisfaisante que prévu. Tout n'est pas débloqué, mais on a pu voter la convention parce que sur les objectifs d'effectifs dans l'enseignement bilingue, sur les objectifs de recrutement de professeurs dans le premier degré, sur la place du breton dans la vie publique, il y avait un certain nombre d'avancées historiques. Tout n'est pas réglé. Pour Diwan en particulier, on a des sujets d'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont reportées, des décisions importantes. Donc on va continuer à discuter, certainement à se mobiliser, mais là, on a quand même validé une victoire d'étape dans un certain nombre de domaines, il faut le reconnaître.
Alors souvent, quand on évoque la langue, presque par ricochet, par répercussion, on pense à la Bretagne élargie dans ses frontières historiques et le fameux retour de Nantes en Bretagne. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Il y a une volonté, alors je ne sais pas si les élections y participent, mais en tout cas, il y a une volonté de faire bouger les choses. On a parlé de référendum. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Oui, je pense que ce serait le meilleur moyen de débloquer la situation, puisque ce qu'on dénonce finalement, c'est un déni de démocratie, avec une majorité de citoyens de l'Euro-Atlantique qui souhaitent la réunification, et une majorité sur la région Bretagne qui le souhaite aussi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que c'est au niveau des institutions qu'il y a des blocages. Le référendum serait pour moi la manière la plus légitime de sortir de ce blocage. Voilà. Maintenant, là encore, un référendum, ça, il faut bien le décider. Mmh. Il faut bien l'organiser. Mmh. On est bien d'accord. Mais pour moi, ce serait un symbole très très fort que ce soit organisé, parce que ça voudrait dire que ceux qui décident de ce que sont les régions, finalement, c'est les citoyens de ces régions. Et c'est plus l'État qui découpe ça. Et je pense que ça donnerait une nouvelle force à la région Bretagne, comme ça pourrait être le cas ailleurs, parce qu'il y a d'autres endroits où le découpage est contesté.
On pense à l'Alsace, par exemple, hein, où ça bouge pas mal actuellement autour de ce découpage.
Ah on suit ça de près, évidemment.
C'est un peu un laboratoire, finalement.
Si les Alsaciens parviennent, par la voie démocratique, à récupérer une région de plein exercice, ce sera un précédent historique pour nous, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'autres précédents.
Ça peut apaiser. Alors, je le disais en commençant, on est dans un contexte très particulier, contexte de guerre, il faut bien lâcher le mot, mais avant que ce contexte de guerre soit là, il y avait un contexte déjà très particulier, les gens ont du mal à se parler, on a une violence quand même dans cette société. Est-ce que le fait justement peut-être d'un redécoupage des territoires, d'un apaisement des territoires, ça peut faire aussi les gens discuter entre eux, alors peut-être sur d'autres sujets, mais est-ce que ça peut permettre aussi aux gens de se retrouver sur des territoires très concrets, avec des objectifs finalement sur ces territoires très concrets aussi.
Alors c'est une possibilité évidemment, plus les collectivités locales seront reconnues, seront légitimes et seront puissantes finalement, plus la démocratie pourra être enracinée. Une grande différence entre la France et ses voisins, c'est qu'on a une démocratie bien fragile sur ses jambes, parce qu'on consacre beaucoup de on concentre beaucoup de pouvoir à la tête, à Paris, et finalement assez peu dans les régions, par exemple, ce qui fait que on a moins l'expérience de la démocratie de proximité que nos voisins. Et assez logiquement, ça fait des débats politiques plus violents. Non que la démocratie locale soit toujours apaisée, toujours en enflure tranquille, on sait bien que c'est pas le cas, mais c'est au moins plus concret et on voit quand même qu'il y a plus de place, oui, pour des convergences concrètes et pour un débat plus sincère, je pense.
Et puis, il y a les élus sur le terrain qui sont quand même plutôt proches de leurs concitoyens, qui peuvent discuter directement.
Ah ben oui, plus on rapproche le pouvoir, plus on augmente le pouvoir d'interpellation des citoyens vers les élus. Et ça, c'est très important. C'est très important que les élus sachent que quand ils votent quelque chose, ils peuvent se retrouver à devoir l'expliquer le lendemain à leurs concitoyens. Et c'est sûr que plus on concentre le pouvoir, plus on réduit cette possibilité-là, plus on prend le risque que les élus ne comprennent même pas très bien comment leurs décisions sont ressenties.
Alors aujourd'hui, il y a cet éloignement des élus, alors des élus de la République, on parle à l'échelle gouvernementale, du territoire, et j'allais presque dire des bassins de vie aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une rupture entre la population et ces élus-là, et ça se traduit aujourd'hui par un désintérêt pour la politique, un désintérêt pour les urnes, et beaucoup de personnes dans le désespoir qui se tournent aussi vers les extrêmes.
Alors tout ça est très paradoxal. Je me souviens d'un sondage qui était sorti à la fin de l'année 2021, qui montrait que globalement la population voulait plus de pouvoir pour les régions, pour les communes, pour beaucoup plus de pouvoirs locaux et régionaux. Et en même temps, que c'est pour ces élections qu'elles se mobilisent le moins. Alors on peut se dire que c'est un peu paradoxal, mais en même temps, les gens savent où est le pouvoir. Finalement, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Et je suis persuadé qu'en donnant oui, plus de pouvoir aux régions, on aura plus de participation aux élections. Un exemple, c'est la Corse. C'est pas une région statutairement, mais c'est l'équivalent d'une région. Et là, on a eu plus de 50% de participation. Beaucoup plus, deux fois plus que dans la plupart des régions françaises. Eh bien, la différence entre la Corse et les autres régions, c'est que là-bas, les départements et la région ont fusionné. Donc déjà, ça simplifie un petit peu les choses. Les gens sont mal moins les pinceaux. Et ils ont un petit peu plus de pouvoir qu'ailleurs. Un petit peu plus. C'est pas l'autonomie, hein, mais ils en ont un petit peu plus. Et ça politise plus le débat en Corse. Et du coup, les gens se passionnent un peu plus pour ça, évidemment.
On a finalement reporté le débat national sur le débat régional.
Oui, et évidemment, ça coince parce que quand on reporte le débat national sur le débat régional, mais en fait, les régions n'ont pas les compétences de l'État. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage. Quand on parle de sécurité à l'échelle régionale, les régions n'ont aucune compétence à la matière. Donc forcément que les propositions sont complètement à côté de la plaque par rapport au débat dans ces cas-là. Et c'est d'ailleurs un des soucis sur les élections régionales. Alors, il y a deux manières de voir les choses qui ne sont pas contradictoires. Soit on se dit que les régions ont plus de pouvoir et que dans ce cas-là, le débat se concentrera sur ce qu'elles peuvent effectivement faire. On peut aussi dire que voter partout en même temps, c'est problématique, et qu'on pourrait ne pas voter les élections régionales dans toutes les régions en même temps. En Allemagne, on ne vote pas dans tous les Länder le même jour. Et ça décourage un peu le risque d'une campagne nationalisée et en décalage avec ce que font réellement les Länder.
Alors aujourd'hui, on entend des voix qui disent oui, mais alors en Corse, en Bretagne, en Occitanie, si toutes ces régions à forte identité culturelle décident demain de tourner le dos un petit peu à Paris, c'est la fin de la France. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique?
C'est absolument pas la fin de la France. C'est la fin d'un certain modèle politique. Qui est la centralisation et ne pas passer par Paris systématiquement pour décider des choses, ça ne veut pas dire l'éclatement de la France. Là-dessus, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. Et au contraire, je pense que c'est en monopolisant le pouvoir jusqu'à l'absurde, comme par exemple pour le cas du prénom Fañch toujours interdit, qu'on crée des ressentiments qui peuvent conduire à des tensions et à des divisions. Mais regardons l'Allemagne, pays fédéral, où il y a une part de pouvoir législatif dans les Länder, il n'y a aucun risque d'éclatement de ce pays aujourd'hui.
On le voit d'ailleurs à travers la crise actuelle où l'Allemagne a dû un petit peu changer de mentalité, si vous permettez le terme, et se faire un peu violence, alors que l'Allemagne était quand même plutôt assez calme sur les exportations d'armes et tout ça. Et là, pour le coup, avec l'Ukraine, voilà, il a fallu se décider. C'est ça aussi le pouvoir d'une région, de pouvoir être forte, de pouvoir, face à des décisions inédites, pouvoir avoir le pouvoir, justement.
Ah mais oui, mais on peut prendre un exemple très simple, c'est l'urgence de la politique du logement. Crise assez récente, non pas que l'augmentation des prix soit récente, mais la flambée est récente. Et là-dessus, la région est assez démunie. Mmh. Elle a l'établissement public foncier qui aide les communes à mener des programmes pour produire du logement, mais ça prend des années. Et puis, on est sur quelques centaines de logements par an qui sortent comme ça. Donc, c'est très peu par rapport aux besoins. Et le problème, c'est que la région n'a pas de pouvoir législatif. Elle n'a pratiquement pas de pouvoir réglementaire. Donc, elle ne peut pas intervenir pour réguler le marché. Mmh. Première chose. Elle demande à Paris. Chenet Girard l'a fait. Il l'a écrit à la ministre. Mais elle ne le fait pas. Donc, il peut demander et puis attendre. Et puis sinon, la région peut mettre de l'argent, mais elle n'en a pas tant que ça. Mmh. Elle a un budget d'1,7 milliard, dont une bonne partie va au lycée, au TER, et c'est très bien. Il ne faut pas arrêter de les financer, mais il n'y a pas des marges de manœuvre fantastiques pour intervenir massivement et régler un problème. Et ça crée des frustrations.
Vous avez reçu, hein, il y a quelques temps, vous n'étiez pas encore conseiller régional Nîmes-Cahuiscin, pour justement ce petit opuscule que vous aviez écrit autour de la possibilité d'un passeport résidentiel. Hein, je ne sais pas si on peut reprendre le terme.
Je ne vais pas le dire comme ça. Statut de résident.
Statut de résident, voilà. J'extrapole un peu sur ce passeport parce que ça a été ressenti comme ça un petit peu. On a dit, voilà, il va falloir un passeport pour être breton, pour habiter en Bretagne.
Non, alors ça n'a rien, mais absolument rien d'une autorisation. Par rapport à l'identité des personnes, ni même pour avoir le droit d'habiter en Bretagne. C'est une réglementation de l'accès à la propriété dans les zones tendues, pas de l'installation. Et du coup, le principe, c'est que dans les zones où il y a tellement de résidences secondaires que l'achat devient impossible, et la location aussi pour la plupart des gens, on demanderait d'habiter depuis un an dans les environs pour avoir le droit d'acheter. Pas de s'installer, d'acheter. Et ça, en fait, c'est une mesure qui permettrait l'accès au territoire à des gens qui en sont exclus concrètement aujourd'hui. Ça, c'est absolument pas décider qui est breton ou pas, c'est même pas la question. Et d'ailleurs, nationalité française ou pas, ce n'est pas la question. Vous pourriez être ougandais et habiter là depuis un an, et ça marcherait. Voilà. Donc il ne s'agit absolument pas d'un quelconque passeport, c'est une mesure de régulation.
Alors, je vous taquinais un petit peu, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, hein, qui sont très imaginatifs. Aujourd'hui, il y a cette question du logement, là on parlait tout à l'heure des transports. Je reviens deux minutes sur l'élection présidentielle. On a vu cette montée de l'extrême droite. Alors, vous parliez du prénom Franche, peut-être sera-t-il interdit ici. Voilà. Mais est-ce que, plus sérieusement, aujourd'hui, ça vous inquiète? J'ai posé la question à plusieurs des invités de la matinale. Je la pose de façon assez récurrente. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée de l'extrême droite, y compris ici en Bretagne, qui n'est pas une terre d'élection de l'extrême droite?
Oui, bien sûr, parce que c'est une, pour moi, c'est une décomposition de la conscience politique. Quand on voit comment Zemmour a jailli d'un coup de baguette médiatico-financier, en réalité, sans s'appuyer sur aucun mouvement populaire. C'est le succès du bourrage de crâne, cette candidature.
C'est dangereux.
Non pas que je trouve que Le Pen soit fantastique, hein, absolument pas. Mais là, on a une forme d'extrême droite complètement construite, mais par un empire médiatique.
C'est dangereux.
C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et ça montre qu'une partie de l'électorat a totalement perdu ses repères politiques.
Comment se réapproprier, justement, alors peut-être à l'échelle régionale, justement, cet électorat, comment déjà le faire revenir aux urnes et avec des propositions qui soient vraiment en phase avec ce qu'il attend, cet électorat?
Je pense qu'il faut assumer des propositions relativement radicales et de rupture. Ça ne veut pas dire violentes. Quand je dis ça, je le précise. Hein. Mais,
Des... ceux qui ne parlent pas breton, je ne parle pas breton, vous nous gardez.
Mais en tout cas, quand je dis radical, c'est au sens de qui essaie de régler les problèmes à la racine. Je pense que la gauche se perd avec des solutions cosmétiques et qu'il faut qu'elle renoue avec une volonté de résoudre les problèmes globalement, en bousculant parfois l'ordre établi. Là encore, ça veut pas dire être agressif dans le discours, c'est absolument pas ça, mais c'est donner des perspectives de changement. Et si on donne pas ces perspectives de changement, une partie de l'électorat ira les chercher ailleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, il nous reste à peine une minute et demie, Nîmes-Cahuiscin. Vous l'imaginez comment, l'exercice va être dur, vous l'imaginez comment la Bretagne, votre Bretagne de demain?
Alors, celle qui me fait peur ou celle dont je rêve?
Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez.
Ah, eh bien, j'imagine une Bretagne où on privilégie le logement permanent, où chacun peut se loger près de son travail, correctement, où on a préservé les terres agricoles, où on a réduit les déplacements contraints, où finalement, on a reconstruit une société plus égalitaire et plus sobre. et où on est fier de vivre avec les autres.
Vous allez faire venir beaucoup de citadins des autres régions, hein, et ça va leur plaire le discours. En tout cas, merci Nilka Wissin d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Bretagne 5, et vous allez revenir parce que la campagne continue et il y a beaucoup de choses qui se passent en région. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne, militant UDB, et que vous êtes venu au micro de Bretagne 5 matin en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.